Très bon réveil à tous, le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le gouvernement revalorise les salaires des policiers après une journée de protestation. Entre 120 et 150 euros de plus chaque mois d'ici un an. C'est ce qu'on voulait, réagit le syndicat Unité SGP Force Ouvrière. Réaction à suivre. Avant cela, nous ferons un point global sur le vote à venir des mesures fiscales prises cette fois pour les gilets jaunes. Intégrées au budget 2019, ces mesures rassemblent majorité et opposition au Parlement.
Dans cette édition encore, nous irons à Baltimore aux États-Unis. Les autorités y rachètent les armes des habitants pour endiguer la violence et les vendeurs, vous l'entendrez, sont très nombreux.
Les États-Unis, dont les soldats vont se retirer de Syrie sur décision de Donald Trump. Son allié Israël promet déjà d'assurer sa propre sécurité car les tensions avec l'Iran notamment sont souvent vives sur le front syrien.
Et y aura-t-il une présidentielle en République démocratique du Congo dimanche? La campagne électorale à Kinshasa est suspendue par les autorités locales. Elle parle de violence.
En fin de journal, zoom sur un groupe de pop coréen. BTS fait fureur auprès des jeunes en ce moment et dope surtout le PIB sud-coréen, chiffre à l'appui. Dans un quart d'heure, Frédéric Seitz nous rejoindra pour son billet politique. Il se demandera si le gouvernement a raison ou non de blâmer les technocrates. Ils ont à peine retouché le projet de loi sur les mesures d'urgence économiques et sociales. Les députés hier soir ont fait passer au texte le cap de la commission. Il doit maintenant être discuté dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il y a notamment le retour à un taux normal de la CSG pour les retraités qui touchent moins de 2000 euros par mois, la défiscalisation et la désocialisation des heures supplémentaires, idem pour les primes exceptionnelles de fin d'année. Toutes ces promesses ont été faites aux gilets jaunes et doivent donc être adopté d'ici demain au Parlement, ajouté au budget 2019. Cela se fera a priori sans difficulté, comme si Stéphane Robert, la réponse finalement apportée à la mobilisation des Gilets jaunes, mettait tout le monde d'accord.
Les discussions entre parlementaires ont lieu depuis déjà plusieurs jours, avec en particulier le rapporteur de la loi à l'Assemblée, le député En Marche, Olivier Véran, qui essaie de convaincre l'opposition majoritaire au Sénat de voter pour.
L'enjeu, c'est répondre à la commande du président de la République, pour laquelle j'espère que nous aurons un accord majoritaire très large également au Sénat. À l'heure à laquelle je vous parle, nous n'avons pas de raison de penser que nous ne pourrions y arriver. Donc on va y arriver.
Si l'opposition sénatoriale se montre plutôt conciliante, les groupes d'opposition à l'Assemblée ne cherchent pas non plus l'opposition systématique. De toute façon, pour le chef de file des socialistes, Olivier Faure, il n'est pas possible de voter contre.
Je ne voudrais pas que ensuite on ait La République En Marche qui court les plateaux pour expliquer que nous avons voté contre les quelques euros de plus au niveau du SMIC, contre le relevage du seuil pour les retraités qui sont ponctionnés sur la CSG, etc.
À droite, même chose, il n'y aura pas d'opposition au texte de loi, au pire, un vote d'abstention. Car pour le député Les Républicains de la Manche, Philippe Gosselin, ce qui va s'appliquer n'est pas tout à fait ce qui a été annoncé. Par exemple, dit-il, la hausse de la CSG sera maintenue début janvier et ce n'est que dans 6 mois que le surplus sera remboursé aux retraités concernés. Il n'est donc pas question de donner un blanc-seing à Emmanuel Macron.
On a un certain nombre de mesures qui sont parfaitement dans l'optique de ce que nous souhaitions. Mais donner une onction tamponnée des mesures qui sont pour une part encore bancales juridiquement, fiscalement, ça mérite réflexion.
Au bout du compte, ces mesures d'urgence seront adoptées à une large majorité et tout le monde pourra souffler le temps des fêtes de fin d'année. Mais beaucoup craignent une résurgence de la colère qui s'est exprimée dans les semaines ou dans les mois qui viennent.
Et justement, d'ailleurs, une colère monte en ce moment, celle des fonctionnaires qui aimeraient aussi se voir verser des primes de fin d'année. La CFDT interpelle ainsi le gouvernement. L'État, dit le syndicat, ne peut pas se contenter d'inciter les entreprises à offrir des primes sans faire d'efforts pour les fonctionnaires les moins rémunérés. Hier, en commission à l'Assemblée, justement, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a donné quelques chiffres à ce propos. La réforme de la prime d'activité pour les plus bas salaires va concerner, dit-elle, 12% des fonctionnaires contre 8% actuellement. Ils sont fonctionnaires et ils sont récompensés pour leur mobilisation face aux gilets jaunes et surtout face aux casseurs ces dernières semaines. Les policiers vont voir leur salaire revalorisé de 40 euros par mois dès le 1er janvier. Cette hausse atteindra 120 euros par mois d'ici un an. C'est ce que fait savoir le ministère de l'Intérieur. 150 euros par mois pour les plus hauts gradés. Hier soir, place Beauvau, l'intersyndicale des policiers négociait pour la deuxième soirée consécutive sur l'amélioration du quotidien des fonctionnaires. Yves Lefebvre, secrétaire national du syndicat, a exprimé sa satisfaction un peu avant minuit. C'était devant le ministère.
C'est aujourd'hui ce qu'on voulait. On voulait une amélioration immédiate du pouvoir d'achat. A été, pour une partie, déjà dès le 1er janvier, ensuite un étalonnement jusqu'ensuite au 1er juillet, et avec une clôture sur la terminaison de l'allocation de maîtrise de l'indemnité spécifique aux gradés gardiens de la paix liés à leur disponibilité et à leur professionnalisme de 40 euros. Donc pour nous, c'était le point d'achoppement depuis hier au soir. On n'aurait pas signé s'il n'y avait pas d'avancée, d'amélioration du pouvoir d'achat des policiers. Aujourd'hui, c'est fait, et pour ceux qu'on représente majoritairement, les gradés gardiens de la paix, avaient derrière de belles perspectives pour les heures supplémentaires, pour également les personnels administratifs, techniques et scientifiques, qui feront partie du chantier dès le mois de janvier, avec les adjoints de sécurité. Donc on peut dire qu'après d'âpres discussions, après avoir été à la limite par moment du point de rupture, ce tel était le cas, et vous avez pu vous en rendre compte, je dirais, au moment de nos sorties répétées lors des interruptions de séance souhaitées par l'intersyndicale, on a obtenu véritablement, on peut considérer, une avancée assez conséquente malgré tout.
Yves Lefebvre, le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO, au micro de Laurélie Carive. Autre chantier par ailleurs, les millions d'heures supplémentaires en retard pour les policiers. Ce chantier sera examiné, lui, au mois de janvier.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Nous en venons à cette initiative originale aux États-Unis pour endiguer la violence. La police de Baltimore rachète les armes de ses habitants.
Baltimore est considérée comme la ville la plus dangereuse d'Amérique, avec environ 300 homicides par an, l'une des villes les plus dangereuses. Les autorités offrent donc 100 dollars pour une arme de poing, 500 dollars pour un fusil automatique. Les armes sont ensuite détruites. L'opération se déroule toute cette semaine et c'est un reportage de notre envoyé spécial à Baltimore, Grégory Phillips.
Il a une trentaine d'années et il arrive en portant à la main un étui rempli d'armes à feu. Là, j'en amène quatre, dit Jay. Deux armes semi-automatiques, plus un fusil et un revolver. Mais vous savez, j'en ai encore une vingtaine à la maison. Tout acheté légalement. Je suis juste là pour l'argent. Après tout, c'est bientôt Noël et à Noël, tout le monde a besoin de cash, non ? Jay pénètre dans le centre communal. Là, les policiers ne lui demandent ni son nom ni l'origine des armes. Et le jeune homme repart avec 700 dollars en liquide. C'est la maire de Baltimore, Catherine Pugh, qui est à l'origine de cette opération baptisée « Gun Buy Back ». On rachète vos armes. Il faut qu'on arrive à faire disparaître de nos rues toutes les armes illégales, dit la maire. Des innocents sont tués, d'autres se retrouvent sans le vouloir au cœur de fusillades. Il y a trop de violence par arme à feu dans cette ville. Sur Montford Avenue, de midi à 20h, c'est un balai quasi ininterrompu. Kenny vient se débarrasser d'un revolver jamais utilisé depuis 30 ans. Et voici ce qu'il répond quand on lui demande s'il pense que cette opération va être efficace. Pas vraiment. Les gens honnêtes vont ramener des armes, c'est sûr, mais pas les voyous qui, eux, vont les garder. Mais bon, si ça permet de sauver une vie, ça vaut le coup. L'opération se déroule jusqu'à demain vendredi dans trois quartiers de la ville. Pour l'instant, la police a récupéré près d'un millier d'armes à feu.
C'était le correspondant de France Culture Outre-Atlantique, Grégory Phillips. Les États-Unis encore, dont les soldats basés en Syrie vont quitter le territoire sur décision unilatérale de Donald Trump. Le président américain estime avoir gagné la guerre contre le groupe État islamique en Syrie et annonce donc le retrait des 2000 Américains présents. Cette décision entra l'Amérique pendant des années, a déjà réagi le sénateur de son camp, sénateur républicain Marco Rubio. Sa collègue Lindsey Graham dénonce, elle, un coup de pouce aux djihadistes. Alors, ce retrait suscite en effet beaucoup de questions, notamment sur la place que pourraient maintenant occuper la Russie et l'Iran, deux rivaux de Washington. Rivaux aussi d'Israël, qui, par la voix de Benjamin Netanyahou, n'a pas manqué de commenter cette décision de Donald Trump, Étienne Monin.
Comme toujours avec Donald Trump, la réaction du Premier ministre est respectueuse du choix américain, même si le manque d'enthousiasme inhabituel laisse percevoir en creux une préoccupation pour la nouvelle configuration sur le territoire syrien. Benjamin Netanyahou a été prévenu de cette décision lundi. Il dit avoir parlé avec le président américain. « C'est une décision américaine », dit-il dans un communiqué. « Nous allons étudier les ramifications qui nous concernent, mais quoi qu'il arrive, nous protégerons la sécurité d'Israël et nous nous défendrons de ce front. » Depuis un an, la Syrie est source de tensions plus ou moins fortes. Elles sont provoquées par la politique de la ligne rouge imposée par les Israéliens. Le gouvernement veut faire barrage au transfert d'armes sophistiquées à destination du Hezbollah et à l'enracinement iranien. Des sites ont été régulièrement bombardés. L'Iran est soupçonné d'avoir cherché à répliquer l'été dernier dans un épisode de fortes tensions. Le retrait américain n'est pas une bonne nouvelle pour Israël. Le Premier ministre avait déjà fait pression il y a quelques mois pour retarder l'échéance. Il risque de laisser le terrain libre pour l'Iran et pour le régime de Bachar el-Assad, à un moment où le front avec le Hezbollah s'est tendu après la découverte par les Israéliens de tunnels offensifs creusés depuis le Liban sous leur territoire.
Étienne Monin depuis Jérusalem. Au sud de Londres, l'aéroport de Gatwick est fermé depuis minuit cette nuit. Les autorités britanniques évoquent le survol du site par deux drones. Les vols aériens ont donc été redirigés aujourd'hui vers d'autres aéroports en Grande-Bretagne ainsi que dans les pays voisins comme la France. Carlos Ghosn pourrait sortir de prison prochainement sous caution. Un tribunal japonais vient tout juste de rejeter une nouvelle demande d'extension de sa garde à vue. Arrêté le 19 novembre dernier, le PDG de Renault, ancien patron de Nissan, a été, je vous le rappelle, inculpé pour dissimulation de revenus au Japon. En bref encore, les deux finalistes de l'élection présidentielle à Madagascar se déclarent tous les deux vainqueurs. Hier, les Malgaches ont voté pour départager ces deux anciens chefs de l'État engagés dans un duel au couteau aux airs de règlement de compte personnel. Et tout cela fait planer le risque d'une nouvelle crise politique à Madagascar, un pays qui en a connu de nombreuses depuis son indépendance de la France en 1960. En République démocratique du Congo, on est encore bien loin des querelles à propos des résultats. La campagne électorale est suspendue dans la capitale Kinshasa après des jours de violence et l'élection présidentielle, déjà deux fois reportée en deux ans, pourrait être repoussée. Un candidat de l'opposition, Anthony Fouchard, n'a pas pu tenir une réunion publique hier.
Martin Fayoulou n'a jamais pu rejoindre le stade où il devait tenir son meeting en plein cœur de Kinshasa. C'est une première. La campagne électorale doit s'achever ce vendredi à minuit, mais le gouverneur de la capitale y a mis fin prématurément. Raison invoquée, les violences potentielles qui pourraient survenir en marge des rassemblements. La police a donc bloqué le cortège du candidat à l'entrée de la ville, ce qui a provoqué l'ire de ses supporters. Des milliers d'entre eux ont alors décidé d'aller le chercher, envahissant la route menant à l'aéroport. La police s'est largement déployée pour tenter de les disperser à l'aide de gaz lacrymogène, mais aussi avec des tirs de sommation. Le bilan est encore incertain, mais plusieurs personnes ont été blessées. L'opposition a dénoncé une nouvelle tentative de division et de sabotage de la part du régime, alors que dans le même temps, la rumeur d'un report des élections a enflé toute la journée à Kinshasa. Des sources dans les chancelleries occidentales confirment que Corneille Nangaa, le président de la commission électorale, a passé des coups de téléphone aux différents ambassadeurs pour leur annoncer la nouvelle. Mais pour l'instant, rien d'officiel. Une conférence de presse doit avoir lieu ce jeudi.
Cette élection, rappelons-le, est marquée par la non-candidature du président sortant, Joseph Kabila, qui est au pouvoir en RDC depuis 17 ans. Des soupçons de fraude planent également autour du matériel électoral. De nouvelles machines ont ainsi été commandées pour le pays, commandées notamment à la Corée du Sud. Tenez, la Corée du Sud, justement. Le pays, nous l'apprenons, gagne beaucoup d'argent grâce à cela. Allez, 4 secondes, pas plus ce matin. C'est un groupe de chanteurs sud-coréens, BTS, extrêmement populaire en Corée du Sud, mais également aux États-Unis et en Europe, populaire auprès des jeunes. Un groupe de chanteurs qui contribue à lui seul à apporter 3,6 milliards de dollars par an à l'économie sud-coréenne. C'est ce qu'affirme en tout cas un rapport d'un institut de recherche économique en Corée du Sud. Et voici maintenant les explications de notre correspondant Frédéric Ojardias.
Avec leur chorégraphie calibrée au millimètre et leur sourire ravageur, les 7 jeunes chanteurs de BTS ou Bangtan Sonyeondan font chavirer la planète. Leur album a occupé cette année le sommet des ventes aux États-Unis, les places de leurs concerts s'arrachent en quelques secondes et ils accompagnent parfois le président sud-coréen dans ses visites officielles à l'étranger. À lui seul, BTS apporte plus de 3 milliards d'euros par an à l'économie sud-coréenne, équivalent de 26 entreprises de taille moyenne, a calculé le très sérieux Institut de recherche économique Hyundai à Séoul. L'Institut a évalué l'impact de la popularité du groupe sur les exportations coréennes de mode et de produits cosmétiques. Il estime aussi que chaque année, 800 000 touristes étrangers choisissent de visiter la Corée en raison de leur passion pour les jeunes idoles, ce qui représente 7% du total annuel de visiteurs étrangers au pays du matin calme. Sur le questionnaire de l'immigration, distribué dans les avions avant l'atterrissage à Séoul, dans la case « Raison de votre visite en Corée », de nombreux fans écrivent d'ailleurs tout simplement « BTS ». Le groupe est un excellent exemple de ce que les anglo-saxons appellent le « soft power », le pouvoir d'attractivité et de séduction d'un pays grâce à sa culture. La contribution de BTS à l'économie coréenne devrait ainsi atteindre un total estimé à 32 milliards d'euros d'ici 2024, si bien sûr son exceptionnelle popularité se maintient d'ici là.
Voilà. Voilà, il faut qu'il dure encore au moins 6 ans. La météo de ce jeudi qui débute, elle sera généralement grise et pluvieuse sur une grande partie du pays, de la façade atlantique jusqu'au Grand Est, en passant par le nord de l'Auvergne. Seules les frontières du sud resteront au sec aujourd'hui et seront généralement ensoleillées. Comptez 5 degrés à Lyon et à Besançon dans la matinée, 7 à Paris et Lille, 9 degrés à Bordeaux et à Marseille, 10 degrés à Rennes, 11 à Bayonne.